une question, c'est une remarque, mais parce qu'ils ont fait une grossière faute, enfin de traduction là.
Oui. Alors,
Liberame, c'est page 65 dans le bas.
Oui.
Perox sacrosanctum corpus et sanguinem tuum. La bonne traduction, c'est délivrez-moi par votre corps et votre sang, infiniment saint. C'est les deux qui sont saints. Et ils ont dit délivrez-moi par ce saint corps et par votre sang. Ça pourrait laisser supposer que le sang n'est pas saint.
Parce que le corps est plus honoré que le sang en général dans les prières.
Oui, mais le latin dit bien que c'est les deux.
Non, parce que c'est au singulier, sacrosanctum.
Non, mais on n'est pas au pluriel.
Oui, mais si vous voulez, on peut mettre au singulier alors que ça porte sur les deux noms.
Oui, c'est ça.
Oui, mais on peut, mais il y a deux possibilités de traduction.
Ça dépend d'une seule.
Voilà. Mais votre remarque est juste, on peut attribuer sacrosanctum à corpus et sanguinem.
Je vois pas comment on pourrait faire autrement.
Comment ?
Je vois pas comment on pourrait faire autrement.
Mais parce que c'est hoc, c'est du neutre.
C'est les deux qui sont saints. Ça.
Oui, mais à ce moment-là, c'est le singulier de sanguinem qui l'emporterait. Okay. Et là, on est en train de faire de la grammaire latine. On verra ça ensemble tout à l'heure. Mais je suis d'accord avec vous, hein, c'est tout à fait possible. Oui.
La deuxième fois, je sais pas comment expliquer, quand vous reversez de l'eau dans le calice, c'est pour enlever le sang.
Oui, là, c'est pour diluer les gouttes de sang qui restent.
D'accord, ça veut dire que d'abord le prêtre boit tout et,
oui.
Et après c'est une façon de rincer, on va dire. Et dans le
voilà, calice, tout à fait. D'accord. Parce qu'on ne peut, c'est le précieux sang.
Donc,
dans les purifications traditionnelles, on met du vin qui dilue mieux que l'eau, et ensuite du vin et de l'eau, pour que tout soit, qu'il n'y ait plus aucune trace du précieux sang.
En Orient, dans le Byzantin, en fait, quand les gens communient au corps et au sang de Christ, ensuite, chaque fidèle va se purifier avec un petit peu de vin et du pain. Non, qui ne sont pas consacrés.
Voilà, pour emporter tout ce qui peut être sacré dans sa bouche. Mais ça, c'est, si vous voulez, c'est des coutumes qui sont venues après les premiers siècles. Hein. Et voyez, puisqu'on a dans sa bouche l'hostie et le précieux sang, le fidèle, il a un peu de précieux sang dans sa bouche. Donc on va leur offrir du vin pour diluer le précieux sang qui est dans sa bouche. Le prêtre, lui, le fait forcément.
Qu'est-ce qui fait que, en fait, quand on fait une adoration, c'est juste au corps du Christ?
Parce que le précieux sang ne se conserve très mal. La matière qui porte la substance de Jésus est très fragile. Le vin, dans sa structure, s'aigrit et ça devient du vinaigre. Or, ce n'est que la structure du vin, mais la substance est la substance de Jésus, du Verbe fait chair. Donc, on ne va pas laisser Jésus, dans une matière qui l'entoure. Et qui s'aigrit, qui ne pourra pas être consommé, ça serait indigne. Donc, la matière la plus solide et la plus pérenne, c'est la matière du pain. Mais si vous voulez, il n'y a que Dieu qui puisse changer l'être profond d'une chose. Et pour vous faire rire, pour une chose sérieuse, il pourrait donner à un chien la substance, l'être d'un chat. En toute apparence, ça serait un chien, mais il lui donnerait tout l'instinct et tout l'être substantiel du chat. Donc vous voyez le chien tout d'un coup qui serait là et qui marcherait délicatement. Enfin, c'est bien, mais qu'est-ce qui lui arrive? L'extérieur serait du chien, mais l'être profond serait du chat. Vous voyez? Non, mais c'est une manière de faire de la philosophie très simple. Hein. Moi, je simplifie énormément. Mais, voyez-vous, l'adoration profonde, dans les premiers siècles, on apportait la Sainte Hostie à ceux qui étaient en prison et qui allaient mourir. Vous avez Tarcisius qui avait une petite boîte où étaient les Saintes Hosties et où il allait les apporter aux futurs martyrs, mais on emportait aussi une parcelle de l'autel de l'évêque à une église où la messe s'était célébrée par un prêtre pour montrer la communion consommait la même victime et qu'on était unis au même Seigneur. On prenait une parcelle, on la mettait dans une pyxide, dans une custode, dans une boîte, et elle était emportée par un clerc, par un acolyte, pour après à un moment donné par un diacre, dans une autre église, pour qu'au moment de la communion dans l'autre église, on communie aussi à l'hostie qui avait été consacrée par l'évêque, pour montrer l'union. Donc, Saint Tarcisius va être attaqué par des soldats ou par des enfants, des jeunes gens. Il le frappe, il le tue, mais jamais il ne cédera pour que notre Seigneur ne soit pas livré aux païens. Et un prêtre va arriver, et les mains de Saint Tarcisius ne se seront plus du tout crispées, et il pourra prendre le Saint-Sacrement. Donc on donnait le Saint-Sacrement aux futurs martyrs. Ensuite, on donnait le Saint-Sacrement aux malades qui ne pouvaient pas aller à la messe. Et donc, à un moment donné, on a conservé les hosties dans l'église, à un endroit pour les malades, quand il n'y avait plus de persécution pour les malades. Et de cette conservation de notre Seigneur dans les saintes hosties pour les malades à tout moment, à un moment donné, on les a données aux mourants. Et c'est le viatique, pour qu'ils reçoivent Jésus juste avant leur passage de la vie à la mort, le Saint Viatique. Alors quand les protestants ont reproché aux catholiques de dire « Oui, mais pourquoi vous adorez ce qui a été mis de côté simplement pour participer à la présence sacrée, mais c'est une présence symbolique ?» Non. Ce n'est pas une présence symbolique, c'est la présence personnelle du Christ. Et justement, petit à petit, la piété ou la tiédeur a été compensée par une autre piété qui fait qu'on est resté pour adorer notre Seigneur, qui était conservé pour les malades, mais en fait, ceux qui n'étaient pas malades et qui allaient à l'église se recueillaient devant la présence de notre Seigneur, dans ce qu'on appelait une armoire eucharistique. C'est-à-dire que dans le cœur, ou à un endroit de l'Église, c'est vrai que ce n'était pas toujours sur le maître-autel, était conservé notre Seigneur dans la Sainte Hostie. Et à un moment donné, on a mis l'armoire eucharistique sur le maître-autel. Et là, du coup, tout le monde pouvait et était invité à adorer notre Seigneur immédiatement et principalement présent dans l'axe de l'Église. Donc, lors de la Réforme, dans les années 70, on a dit « Oui, mais non, il y a eu des armoires eucharistiques sur le côté, tout ça. » Alors, du coup, on a déplacé notre Seigneur, au mieux sur le côté du cœur, au pire, dans une chapelle. Mais tellement, à la fin, on doit faire le tour de l'Église ou le tour d'une cathédrale pour savoir où est Jésus. Jésus, Jésus, je suis chez vous et je ne vous trouve pas. Voilà. Je suis là. Voilà. Et d'ailleurs, le voile qui est devant la porte du tabernacle signifie plus la présence, parce que c'était le voile, les tentures du tabernacle de l'Alliance pendant la traversée du désert. Plus que la lumière qui est habituellement rouge, avec de l'huile. Vous voyez, c'est de l'huile, et de nos jours, l'huile est assez solide, et elle fond petit à petit sur 1 ou 2 centimètres par la flamme. Mais normalement, la lampe du sanctuaire doit être comme au temple de Jérusalem, avec de l'huile. Voilà. Donc quand vous êtes dans une église, vous voyez une lampe rouge, c'est la présence de notre Seigneur. Mais normalement, il devrait y avoir aussi le voile, qui signifie la présence de l'Arche d'Alliance dans le Saint des Saints. Et qui est maintenant la véritable Arche d'Alliance? Mais c'est Jésus. C'est pas la peine de retrouver l'Arche d'Alliance, et c'est pas la peine de reconstruire le Temple, puisque Jésus est là. Et avec l'Antéchrist, on va bien se disputer, parce que lui, il va dire, mais moi, je suis le représentant de Dieu, l'amour, les droits de l'homme, l'euthanasie, l'avortement pour les enfants qui nous ennuient un peu et qui arrivent pas au bon moment, voilà. Et donc, lui, on va reconstruire un grand centre religieux où toutes les religions du monde s'y reconnaîtront. Bon, avec l'euthanasie, l'avortement et tutti quanti, non. Et les juifs qui sont là, le temple est reconstruit, lui, il dit qu'il est de la tribu de Juda, mais enfin bon, ça doit peut-être pas... peut-être de la tribu de Dan, d'ailleurs. Il sera là. C'est notre Messie, lui. Mais nous, on a toujours préservé la vie. Moi, je suis un juif. Ah oui, mais voilà, vous êtes des intégristes, vous êtes des orthodoxes. Hein, les juifs orthodoxes, oui, ils ont 8-10 enfants. Hein, mais ils ne sont pas dans l'amour, dans le caractère raisonnable de la vie moderne. Ah oui, mais les juifs orthodoxes, là, hein, avec les roues flaquettes et compagnie, ils vont être là, ils vont dire, mais c'est quand même pas normal qu'ils nous disent de tuer nos enfants. Jamais Dieu nous a dit de tuer nos enfants. Et puis maintenant, il dit de tuer nos parents. Hein, le fils juif qui est là dit, tu veux que je tue ma mère? Ouais. Ma mère, tu veux que je tue ma mère? Ben oui, elle a 89 ans, elle sait plus comment elle s'appelle, elle bave. Ça va nous faire des économies si on la pique. Ben non! Et là, ils vont dire, ben c'est pas notre Messie. Voilà, voilà, oui. Vous pouvez vraiment partir, hein, il est 10h20.
Il y a une histoire que vous avez racontée, vous avez dit la séance, vous avez quelque chose à vous raconter.
Oui, en troisième partie. C'était
oui, mais c'est vraiment, je ne sais pas.
Tout le monde n'est pas prêt.
Tout le monde n'est pas prêt à entendre ce que je pourrais dire.
Oui, c'est sur les dernières actualités.
Oui, oui, oui. Alors à ce moment-là, bonne nuit à tous.